Le monde décodé. Interview de personnages extraordinaires. Pars avec nous à la découverte de ton monde, de son histoire, de ses enjeux.
Salut! J'espère que tu vas bien et que tu as hâte de retrouver notre série à suspense sur la République roumaine. Rappelle-toi, nous avons terminé le dernier podcast en moins 44. César s'est fait nommer dictateur à vie en février. Et en mars, un groupe de sénateurs romains le fait assassiner au détour d'un couloir du Sénat. Si ça, c'est pas digne d'une série à succès, alors comme dans toutes les séries dignes de ce nom, je te propose un petit récapitulatif de l'épisode précédent. Si tu te souviens bien, depuis moins 80, la République romaine a connu pas mal de guerres civiles. César s'est d'ailleurs servi de la rivalité entre Crassus et Pompée pour s'élever consul. Il a proposé un triumvirat, Crassus, Pompée et César. Et puis est parti chercher la gloire militaire en Gaule, où il a connu des succès retentissants, au-delà de ses attentes même, et certainement au-delà de celle de Pompée, qui ne voit pas du tout d'un bon œil la gloire et renommée croissante de César. Surtout lorsque Crassus meurt lors d'un combat contre les Parthes et que Pompée se verrait bien maître incontesté de Rome. Pompée cherche alors à évincer César, mais c'est le contraire qui se produit. César marche sur Rome, prend Rome, se fait nommer dictateur et part avec ses armées à la poursuite de Pompée jusqu'en Égypte, où ce dernier meurt. César profite un peu des charmes de l'Égypte et de Cléopâtre pour ensuite rentrer à Rome, où il se nomme dictateur à vie. Mais ça ne plaît pas du tout à certains sénateurs, dont son fils adoptif, Brutus, et voilà César assassiné en moins 44. Et qui mieux que la grande Cléopâtre pour nous raconter ce qui s'est passé à Rome après l'assassinat de César. Comme je vous le disais, elle était très proche de lui, mais en plus, elle était justement à Rome lorsque cela s'est passé. Je vous propose donc un nouveau retour virtuel dans le temps pour rencontrer une des femmes les plus fascinantes de l'histoire. Bien sûr, garde en tête le fait qu'elle pourrait ne pas être tout à fait objective vu sa relation avec César. Allez, c'est parti! Cléopâtre, c'est un immense honneur de vous rencontrer. Vous êtes d'origine grecque, descendante d'Alexandre le Grand, et vous êtes pharaon d'Égypte. César était plus qu'un allié pour vous, et c'est lui qui vous a confié le trône d'Égypte. Pouvez-vous nous parler de ce qui s'est passé après son assassinat en moins 44 ?
Bonjour Léa. Ce fut une période bien sombre pour moi, et pour la ville de Rome dans son ensemble. Cet horrible complot visant à tuer César avait été bien conçu et préparé, et les scélérats ont réussi à atteindre leur objectif. Mais ils n'avaient pas anticipé la réaction du peuple romain et la crise que cela provoquerait. Leur acte a plongé Rome dans une période de chaos et de guerre civile, et ils n'ont pas su gérer la sortie de crise.
Quelle a été la réaction du peuple romain ?
Les réactions ont été complexes et mitigées. Bien sûr, le pouvoir croissant de César faisait peur à certains, et sa disparition pouvait être vue comme une chance de restaurer plus de liberté et de république. Mais César était avant tout une figure populaire et respectée, et son assassinat a été perçu comme un acte de violence sacrilège contre un homme considéré comme un dieu vivant. Cela a provoqué des émeutes, de l'incertitude et de la peur. Bref, tous les ingrédients étaient réunis pour une nouvelle guerre civile.
Si je comprends bien, cette guerre civile opposait les anciens ennemis de César à ses partisans.
C'est bien cela. D'un côté, les pseudo-libérateurs, conduits par Brutus et Cassius, qui étaient à l'origine de l'assassinat de César et qui voulaient restaurer la République, et de l'autre les Césariens, qui voulaient venger César et maintenir son héritage.
Et qui menait le camp des Césariens ?
Cela a été un des problèmes. Les Césariens se sont entre-déchirés. J'ai essayé de proposer mon petit Césarion sous ma tutelle, mais sans succès. Au départ, c'est Marc-Antoine qui semblait s'imposer. Il avait pas mal de cartes dans son jeu. C'était un des généraux les plus puissants de Rome et un proche allié de César, et il avait la maturité de ses 40 ans et le soutien des troupes. Mais force est de constater que Octave était un adversaire de choix. Très jeune, mais très ambitieux et qui a su bien manœuvrer.
Qui est Octave ?
Octave est le petit-neveu de César. Il n'avait alors que 20 ans, mais il a fait valoir le fait qu'un an avant sa mort, César l'avait désigné comme son fils adoptif. et, au grand dam de Marc-Antoine, il s'est présenté comme l'héritier légitime de César. Il bénéficiait par ailleurs de la fortune de César, et a su jouer intelligemment sur les craintes du Sénat, qui redoutait que Marc-Antoine ne s'impose en nouveau dictateur. Il a soigné sa popularité et a réussi à gagner le soutien du Sénat, devenant alors incontournable.
Et je suppose que pendant ce temps, la guerre civile entre les Césariens et les Libérateurs continuait à faire rage. Cela faisait beaucoup de conflits en même temps, non ?
Absolument. Heureusement, les Césariens réussirent quand même à vaincre Brutus et Cassius, et à sortir victorieux du conflit. Quant aux rivalités entre eux, ils furent bien obligés de faire un compromis et de conclure une alliance. C'est là qu'en -43 ils formèrent le second triumvirat, Marc-Antoine, Octave et Lépide.
C'est amusant que les descendants de César se retrouvent justement à faire un second triumvirat, ce qui est précisément la manière dont César est arrivé au pouvoir.
Tu as raison. Peut-être qu'on peut y voir un clin d'œil du destin ou des dieux.
Qui est Lépide ? Et comment s'organise le triumvirat ?
Lépide était un ancien consul et un des hommes de César, mais il était moins ambitieux que ses deux comparses et était certainement le maillon le plus faible du triumvirat. Ils se répartirent entre eux le pouvoir et les régions. Octave hérita des provinces occidentales de l'Empire, Marc-Antoine des provinces orientales et Lépide de l'Afrique du Nord. Et ils officialisèrent le triumvirat par une loi.
Les choses semblaient donc bien s'organiser et se stabiliser.
Oui, c'est vrai, et cela dura bon en mal en 7 ans, mais malgré tout l'alliance n'était pas stable et les tensions et rivalités entre eux ressurgirent. En -36, Lépide fut écarté du pouvoir par Octave, et les relations entre Octave et Marc-Antoine se détériorèrent rapidement. Et ça, j'ai pu le vivre de très près. Je dirais même de trop près.
Vous êtes très proche de Marc-Antoine. Depuis quand le connaissez-vous ?
J'ai rencontré Marc-Antoine pour la première fois en -41. Il était gouverneur des provinces orientales de la République romaine, et nous voulions discuter de l'alliance égypto-romaine. Ce que nous n'avions par contre pas anticipé, c'est la forte attirance que nous allions éprouver l'un pour l'autre. Ce fut quasi instantané, et je pense qu'on peut parler de coup de foudre. Ce fut le début d'une merveilleuse histoire d'amour. Nous vivions des moments formidables et Marc-Antoine décida très rapidement de s'installer près de moi, à Alexandrie.
Et comment Octave a-t-il réagi ?
Notre liaison n'a pas du tout plu à Octave, qui a vite reproché à Marc-Antoine d'utiliser son pouvoir pour soutenir mes ambitions politiques et de brader les intérêts de Rome en Orient. Il a aussi convaincu le Sénat que j'interférais dans les décisions de politique romaine et que j'étais une menace pour Rome. Bref, il a utilisé ce motif pour déclarer la guerre à Marc-Antoine et à l'Égypte par la même occasion. Là, nous sommes en plein conflit avec lui et je redoute l'issue du combat.
Marc-Antoine et Cléopâtre seront bel et bien vaincus par Octave lors de la bataille d'Actium en -31. Ce sera une défaite cuisante et Marc-Antoine et Cléopâtre devront s'enfuir en Égypte. Mais leur répit ne sera que de courte durée. Octave les poursuivra avec son armée, bien décidé à en finir avec ses deux ennemis. Redoutant le sort que Octave leur réserve, les deux amants se donneront la mort. Leur relation restera à jamais l'une des histoires d'amour les plus célèbres de l'histoire. Elle inspirera de nombreuses œuvres, comme par exemple une pièce de Shakespeare. La disparition de Cléopâtre mettra ainsi fin à 3000 ans de régime de Pharaon, l'Égypte devenant alors une province romaine. Quant à la République romaine, cette bataille mettra fin à la dernière guerre civile qu'elle connut. S'en suivra une longue période de paix et de stabilité, la Pax Romana, et le début de l'âge d'or pour la culture romaine. Octave deviendra l'homme le plus puissant du monde romain, et par la même occasion, du monde de l'époque. Il sera nommé Auguste par le Sénat. Il deviendra ainsi le premier empereur romain, transformant la République démocratique qui tenait tellement à cœur à Cicéron en un véritable empire autocratique. L'empire fondé par Auguste en -27 durera en Occident jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident en l'an 476. La partie orientale, l'Empire byzantin, durera jusqu'à 1453. Mais nous aurons bien entendu l'occasion d'en reparler lors de nos prochains podcasts. Entre-temps, il est amusant de noter que ce coup de foudre a peut-être changé l'histoire. Peut-être y aurait-il encore des pharaons en Égypte sans cette liaison. Mais ça restera un mystère. Alors, à dans 2 semaines pour la suite de l'Empire romain.